3800 candidats répartis sur 141 listes. C'est la donne électorale pour les municipales des 15 et 22 mars prochains. Vous retrouverez dans un instant la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. La suite du tour des enjeux dans les différentes communes du territoire et ce midi, zoom sur les communes de Yengen et de Touo. La guerre au Moyen-Orient, l'Iran riposte en visant les pays de la région. La Ligue arabe dénonce une politique irresponsable. Emmanuel Macron à Chypre la nuit prochaine pour nous. C'est le seul pays de l'Union européenne visé par l'Iran. Et puis en métropole, à une semaine du premier tour des municipales, le Parti socialiste hésite et se divise pour savoir s'il faut ou non s'allier avec LFI. Et puis les principaux titres de l'actualité sportive que nous développerons dans le MAC des sports tout à l'heure. Bonjour Mickaël Dunesky.
Ah, bonjour Jean-François.
C'était ce week-end la reprise de la saison de F1 et une belle course pour les Flèches d'Argent.
Et c'est reparti pour une saison qui s'annonce épique. Changement de règlement, évolution des voitures et le spectacle a été au rendez-vous à Melbourne. Les Mercedes ont en effet gagné la première manche avec la victoire de Russell alors que les Ferrari étaient à la lutte pour voir Leclerc et Hamilton se classer 3e et 4e. Vivement le prochain Grand Prix dans une semaine en Chine pour voir si ce championnat du monde de F1 2.0 tiendra ses promesses.
Les rêves de Grand Chelem se sont évanouis pour le 15 de France, mais pas les rêves de remporter le tournoi.
Les cartes rebattues, en effet, après la douche écossaise pour les Bleus, battus sur les terres du 15 du Chardon 50 à 40, mais la France est toujours en tête du classement avant le crunch qui s'annonce décisif le week-end de prochain face à l'Angleterre au Stade Saint-Denis.
Et puis, dans la partie consacrée à l'actualité sportive en Calédonie, nous recevrons Johan Sidaner, le sélectionneur de la sélection calédonienne de football.
Absolument, pour évoquer l'actualité du ballon rond, notamment les barrages de qualification à la Coupe du Monde qui approchent pour la sélection A, mais aussi la reprise de la Super League, l'actualité des sélections en général. Johan Sidaner, donc le manager des sélections, sera notre invité.
Et pour ouvrir ce journal, signalons ce nouveau problème technique pour le Betis Show. La Sudine précise il y a quelques minutes qu'une surchauffe moteur a été détectée aujourd'hui lors de la rotation vers Marais-Elifou. La vitesse du Betis Show a été réduite pour éviter une panne plus sérieuse, voire une casse. Après cette rotation, la compagnie va procéder à un nouvel arrêt technique dès mercredi ou jeudi, ce qui veut dire que la rotation en direction d'Ouvéa est donc annulée. Rappelons que les aérodromes des îles sont bloqués depuis une semaine, depuis le début du déménagement des opérations d'Hercal de Magenta vers la Tontouta. Les avions, les aérodromes sont bloqués par des collectifs du SAGE depuis une semaine maintenant. Dans une semaine, le premier tour des élections municipales sera passé. C'est donc la dernière semaine de campagne. Et avec la publication des listes dans les communes de moins de 1000 habitants, on connaît la donne de ce scrutin. On retrouve tout de suite la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Avec 141 listes réparties dans les 33 communes calédoniennes, on constate que les élections municipales motivent fortement. Elles intéressent en tout cas les candidats qui seront quelque 3800 à se présenter au premier tour le 15 mars. Un engouement qui est presque au rebours de la situation nationale où 68 communes n'ont enregistré aucune candidature et ne voteront donc pas dimanche prochain, tandis que dans 23679 communes, une seule liste est soumise au suffrage des électeurs, ce qui, avouez-le, limite le suspense. Pas de ça chez nous ? On se bouscule pour solliciter les administrés. Et même dans de toutes petites communes, on peut trouver 5 listes en présence, comme à Belep ou à Moindoux. Cela illustre la belle vitalité démocratique d'un territoire qui est pourtant appelé aux urnes plus que de raison. Cela traduit également l'intérêt des Calédoniens pour la politique, même si ces municipales sont aussi un exutoire aux frustrations de la fameuse société civile qui trouve là l'occasion de jouer un rôle aux côtés des élus qu'elle fustige allègrement. Mais quelles que soient les motivations de ceux qui se présentent au suffrage, ces municipales 2026 auront un parfum particulier en Nouvelle-Calédonie, avec deux thèmes sous-jacents mais omniprésents, Bougival et le 13 mai. L'accord de Bougival d'abord, parce que la question de l'avenir institutionnel est toujours très présente sur le territoire, et que les élections servent en général à départager les indépendantistes et les partisans de la France. Mais cette fois-ci, l'équation sera plus subtile, puisque les deux camps sont divisés concernant l'accord de Bougival et son accord complémentaire. Chez les indépendantistes, la fracture est nette, et le nouveau FLNKS veut même faire des municipales un référendum pour ou contre Bougival. Le paradoxe, c'est qu'il s'est opposé à la consultation anticipée que la ministre des Outre-mer voulait organiser en même temps que les municipales, et qui, pour le coup, aurait permis précisément de savoir ce que les Calédoniens pensent de l'accord. Mais la consultation a fait long feu, et l'UCFLNKS-CCAT, qui a des listes dans les 33 communes, appelle maintenant à voter en faveur de ses candidats, pour dire non à Bougival. En conséquence, les électeurs indépendantistes favorables à l'accord voteront naturellement pour les listes unies, qui sont présentes elles aussi dans toutes les communes. À l'exception toutefois de Poindimier, où ce sera plutôt un référendum pour ou contre Paul Néoutine, qui est lui-même contre Bougival, tout en étant le leader historique de l'UNI. On plaint par avance les électeurs de cette commune, qui seront soumis, pour certains, à un choix cornélien. Chez les partisans de la France, c'est moins simple, parce qu'il y a peu d'opposants affichés à Bougival, et qu'ils siègent sur des listes qui, majoritairement, soutiennent l'accord. Mais il y a tout de même des têtes de liste qui sont sceptiques sur l'accord, voire carrément réfractaires, sans en faire pour autant un argument de campagne. Mais on peut parier que dans les deux camps, on interprétera les résultats à l'aune de Bougival. L'autre thème récurrent mais sous-jacent de la campagne municipale, c'est bien sûr le 13 mai 2024. Il est présent dans tous les débats, il est évoqué pour justifier les mesures de sécurité, les politiques en faveur de la jeunesse, la nécessité du développement économique, mais dans les propos, personne n'ose invoquer directement les violences insurrectionnelles de mai, comme s'il ne fallait pas prendre le risque de rouvrir des plaies qui sont loin d'être refermées. On cite le 13 mai, mais sans en faire porter la responsabilité à quiconque, et les candidats UCF, LNKS, CCAT réussissent même l'exploit d'en rendre tout le monde responsable, sauf eux, municipal ou pas. Le non-dit a encore de beaux jours en Calédonie.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous retrouvez sur notre site internet que vous pouvez aussi réécouter cet après-midi juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la question du jour. Alors que le premier tour des élections municipales a lieu dimanche le 15 mars, savez-vous déjà pour quelle liste vous voterez dans votre commune? Si votre choix est déjà fait, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Les municipales suite et donnons la parole aux candidats comme on le fait depuis le début de cette campagne avec un focus aujourd'hui sur la commune de Yengen et de Touau. On va commencer Charlotte Coulson par Yengen. Comme en 2020, seules deux listes se présentent pour la mairie. L'élection se jouera en un seul tour.
Yengen, c'est 2455 habitants en 2025 et une superficie de 1068 km, ce qui en fait la troisième plus grande commune du territoire et la plus grande de la province nord. Pour 20 tribus, dont une partie reculée dans la chaîne, l'aménagement du territoire est un enjeu majeur des élections. Autre enjeu de cette commune connue pour sa poule couveuse, son bac de la YM, son sphinx et sa réserve du Mont-Panier, le tourisme et l'environnement. C'est sur ces thématiques que les deux listes font campagne. Mireille Chibaou, 55 ans et assistante de conservation, actuellement élue au Conseil, tirera la liste UCIN cette année. Bernard Houillat, le maire actuel à Paris, est 18e sur la liste. Son programme, forcément, s'inscrit dans la continuité de la mandature actuelle.
Par rapport à la situation budgétaire du territoire, on sait que toutes les caisses du pays, elles sont vides. Donc on ne va pas partir sur des gros investissements, ça ne serait pas logique, on va dire. Donc on va plutôt s'attacher à conforter le confort, le bien-être de nos populations, c'est-à-dire sur les trois points essentiels qui sont les routes, l'eau, et l'électricité et les télécommunications. Pour pallier au problème des routes, c'est de travailler sur un PPI route, sur l'ensemble des 6 années, de programmer des travaux par tribu. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on aura fait quelque chose. Donc, au moins, on espère faire ça. En plus d'autres secteurs qui nous tiennent à cœur, comme l'environnement, comme nous, on est une des communes qui fait le tri des déchets. Donc, on va poursuivre dessus sur la partie environnementale et sur la partie touristique, où là, on va essayer de redorer un peu le blason de la commune, parce que nous avons un atout indéniable en matière touristique, qui est notre potentiel culturel et naturel.
Sowei, c'est le nom de la liste qui fera face à Mireille Chibaou ce week-end. Elle est portée par Jean-Claude Attea, originaire de Yengen. Il a 59 ans et travaille actuellement pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le secteur de la santé. Sowei, cela veut dire « ensemble » en langue Fwaï. Le candidat s'est efforcé d'avoir un représentant de chaque tribu de Yengen sur sa liste, qui se présente comme une liste d'ouverture.
On a 5 axes importants. D'abord, l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est tout ce qui est infrastructure primaire, c'est-à-dire les routes, l'eau, les infrastructures publiques, le stade, tout ce qui est équipement sportif, les écoles, c'est très important. Aussi, le développement du cœur du village, aider les coutumiers à faire du développement en tribu sur des terres coutumières, ça c'est un axe. Aussi, l'habitat en terres coutumières, aider les jeunes à s'installer. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est cohésion sociale. c'est aider à la vie associative, participer aux politiques publiques jeunesse, sportives, animation, loisirs, culturels, et aussi travailler une manière de faire participer les populations dans le cadre d'une démocratie participative. Et pour ça, on a l'objectif de créer, de mettre en place des comités d'usagers qui seront dans les tribus et qui vont participer à l'élaboration des politiques publiques en premier et après dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Mireille Tchibaou pour la liste UCIN et Jean-Claude Athéa tête de liste Soway pour ce scrutin du 15 mars à Yengen.
Et à tout haut, deux listes vont également s'affronter ce dimanche, un duel qui sera identique à celui d'il y a 6 ans.
C'est une commune de 2284 habitants où on parle route, gestion de l'eau et aussi environnement. Tout haut Tchémoui, comme d'autres communes du territoire, abrite un lagon classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces différentes thématiques seront donc au cœur des municipales. Ce dimanche, deux listes indépendantistes se feront face. L'UNI et l'UC ont choisi les mêmes candidats que les précédentes élections pour porter leur liste. Maire de Tout Haut depuis 2020, Alphonse Poignine est de nouveau à la tête de la liste UNI. Il avait précédemment été élu avec 56,41% des voix. Pour la prochaine mandature, l'équipe espère continuer les projets déjà entamés. Calixte Pabouti est 7e sur la liste.
Le programme Malnou, ça rentre dans, on va dire, principalement deux axes, c'est-à-dire la maîtrise des dépenses de la mairie, pour pouvoir dégager suffisamment de finances pour pouvoir les réorienter sur d'autres secteurs plus primaires, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le transport, la cantine scolaire et l'enseignement. On doit continuer les travaux qui n'ont pas pu être achevés, la déchetterie qui doit terminer, la continuité du regroupement territorial de la 4G. Il y a des zones d'ombre encore. Et puis le ramassage des véhicules hors d'usage, d'ailleurs qui a déjà commencé cette année. Voilà, c'est ça qu'on doit terminer. Et encore l'autre chose, c'est continuer à réformer les services communaux.
Et puis il avait obtenu 43,6% des voix en 2020. Donald Sohekir, 59 ans et chargé de mission à la province Nord, tire une nouvelle fois la liste Union citoyenne de Tout Haut cette année.
Notre liste, c'est une liste où on a un programme très réaliste. L'essentiel, c'est tout ce qui est route, tout ce qui est eau, pour que les gens puissent bien circuler, avoir de l'eau tous les jours propre. On a les moyens, surtout vous, de faire des choses, mais il faut que l'équipe municipale, on doit travailler plus sur le terrain. À Tout, on a beaucoup de jeunes qu'il faut les remettre sur le bon rail, en fait, hein, que ce soit dans les études ou essayer de travailler la terre. Nous, on va être l'élément moteur. On va être sur le terrain pour essayer de aussi régler les problèmes coutumiers, hein, parce qu'ici, il y a beaucoup de problèmes fonciers, donc essayer de trouver des solutions avec les anciens pour laisser les jeunes faire de la production, faire de la culture, peut-être la pêche aussi, parce qu'il faut développer la pêche. On a la terre, la mer, et on n'arrive pas à faire les choses pour notre commune.
Ce dimanche, les électeurs devront donc choisir entre la liste UNI portée par Alphonse Poignine et celle de l'Union citoyenne de Donald Sohekir.
Et puis nous signalons ce mouvement d'humeur des habitants de Lillouin. Ils ont installé des banderoles sur les grilles de la mairie du Mont-d'Or pour protester contre la fermeture de l'école, mais aussi pour protester contre l'absence de bureau de vote sur Lillouin pour les municipales, Nicolas Legrand.
Oui, ce bureau de vote est déplacé à Ploum. La décision a été prise l'année dernière et l'arrêté du Haut-Commissariat est entré en vigueur le 1er mars dernier et reste valable jusqu'au 1er mars 2027. Malgré un échange de courrier avec la mairie, une cinquantaine d'habitants s'est donc rassemblée à Boulary ce matin. Une délégation a même été reçue à 9h30. Pour pallier les effets de cette fermeture, la gendarmerie a mené une campagne de procuration mercredi dernier et la mairie du Mont-d'Or met en place un service de navette maritime avec deux bateaux prévus. D'après nos informations, d'autres actions de ce type vont être menées dans les prochains jours à Païta et à Nouméa, notamment par les soutiens des listes FLNKS. Le collectif d'habitants de Lillouin proteste également contre la fermeture de l'école. La mairie affirme qu'il ne manque qu'une institutrice, mais qu'il s'agit d'une compétence provinciale. J'ajoute que seuls 4 élèves sont scolarisés sur plusieurs niveaux dans cette école de Lillouin.
Il est 11h et bientôt 45 minutes. La suite de l'actualité en Calédonie après une première pause dans ce journal.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Rappelons qu'une femme a perdu la vie dans un accident de la circulation à Vaux samedi après-midi. Elle était à bord d'un véhicule qui a fait une sortie de route pour une raison encore indéterminée. La voiture a chuté dans un ravin d'une vingtaine de mètres. Les trois autres occupants ont été blessés, évacués à l'hôpital de Connay. Ils sont tous les trois sortis de l'hôpital. Après le retour des analyses toxicologiques, le conducteur du véhicule sera entendu par les enquêteurs. Il s'agit de la quatrième personne qui a perdu la vie sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. L'année judiciaire est officiellement ouverte depuis vendredi. Les audiences solennelles de rentrée du tribunal de première instance et de la cour d'appel se sont tenues au tribunal de Nouméa. Un moment important pour la juridiction qui s'exprime devant les autorités civiles et militaires. Le procureur général Camille Miancioni était notre invité ce matin. Il est revenu sur l'intérêt de cet exercice très codifié.
C'est vraiment une tradition ancrée dans le fonctionnement de la justice française. Ça existe depuis très très longtemps et c'est une prescription inscrite dans le code de l'organisation judiciaire. Chaque année doivent se tenir dans les cours et tribunaux de France des audiences solennelles. Alors au-delà de la tradition, du rituel et de l'ancrage historique, c'est aussi l'occasion de rendre compte à la cité de ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli comme activité judiciaire, de ce que nous avons fait des moyens que la nation met à notre disposition. Et en cela, c'est répondre à une exigence qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui indique que les organismes publics, les autorités publiques, doivent rendre compte des deniers mises à leur disposition pour le fonctionnement des services publics.
Lors de ces audiences solennelles, le procureur général Camille Miancioni est revenu sur plusieurs sujets en lien avec l'actualité. Il a notamment critiqué le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la gestion des émeutes de mai 2024 par l'État et particulièrement son volet judiciaire.
J'étais très étonné en réalité. Bon, la critique, elle est nécessaire. En revanche, il faut de la nuance. Parce que ceux qui étaient aux commandes de cette situation, ceux qui ont œuvré pour que la paix et la tranquillité reviennent, ont eu beaucoup de sang-froid, beaucoup de distance, beaucoup de courage, et je rends hommage à tous les acteurs. C'est la première chose. La deuxième chose, j'ai regardé les personnes qui ont été auditionnées, et je constatais qu'aucun avocat du barreau de Nouméa n'a été auditionné. C'est très surprenant. Il y a des avocats de France hexagonale qui ont été entendus. Je dis, mais pourquoi ils n'ont pas auditionné les avocats qui ont été des témoins et des acteurs directs de la gestion judiciaire de cette affaire? Donc je trouve que la critique sévère qui a été prononcée à l'égard de la manière dont les choses ont été faites, je trouve excessive. Il me semble qu'il aurait fallu un peu plus de nuance. C'est la raison pour laquelle je suis revenu dessus.
Cette audience solennelle de rentrée est aussi l'occasion pour le procureur général Camille Miancioni de dresser la feuille de route pour l'année 2026.
Les sujets sont déjà campés, malheureusement, depuis longtemps. On a la question des mineurs qui reste une question fondamentale. Il faut qu'on trouve les moyens d'un meilleur accompagnement des mineurs, que ce soit des mineurs au titre de la protection ou des mineurs délinquants. La question de la prison est toujours là. Elle n'est pas réglée. Nous travaillons pour faire en sorte que la surpopulation carcérale soit contenue, maîtrisée ou peut-être même au mieux atténuée grâce à des dispositifs alternatifs. On pense notamment à la nécessité de mettre en place un centre de semi-liberté. Nous travaillons aussi avec des institutions du territoire pour offrir des places de placement extérieur avec un accompagnement au titre de la formation, au titre de la prise en charge éducative, au titre de l'insertion professionnelle, au titre des addictions, etc. Et c'est de nature à tempérer, à réduire la pression qui est exercée sur le centre pénitentiaire de Nouméa.
Et on notera que du côté de l'activité judiciaire en 2025, le nombre d'affaires a été conforme aux attentes, excepté pour la cour d'assises qui a totalisé une dizaine de dossiers de plus que les années précédentes. La cour prévoit d'augmenter la durée des sessions de fin d'année afin de maintenir un délai de jugement satisfaisant. L'actualité dans la région est tournée une nouvelle fois vers le conflit au Moyen-Orient, suivi de près par les autorités australiennes. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a même indiqué que son pays pourrait jouer un rôle militaire, mais uniquement défensif. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Penny Wong a déclaré hier que de nombreux pays du Golfe Persique non impliqués dans l'actuel conflit ont sollicité l'aide militaire de l'Australie pour se protéger notamment contre les attaques de drones et de missiles iraniens. nous traiterons ces demandes conformément à la position que nous avons exposée, a-t-elle dit, à savoir que nous ne participerons pas à des actions ou à des opérations militaires offensives contre le régime de Téhéran. Nous ne déploierons aucune force armée australienne en Iran, a-t-elle insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il sera 11h51 dans quelques secondes. Restez bien avec nous après une nouvelle pause. Ce sera ce conflit au Moyen-Orient qui sera au cœur de notre page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Cet été, offrez-vous un moment détente au Ramada Nouméa. Accès piscine plus déjeuner pour seulement 4000 francs adultes et 2000 francs enfants. Plongez, relaxez-vous et profitez. Réservé au 23 90 00. Ramada Nouméa, le bonheur sous le soleil.
Comment devenir le meilleur de tous les temps? En un mot, le GOAT des soirées cinéma. Étape 1, profitez de l'offre du moment Canal+, avec les plateformes Apple TV, HBO Max, Paramount+, et bien sûr, les 10 chaînes Canal+ incluses pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. Étape 2, à vous le cinéma ultra récent, le sport en direct et les séries exclusives sur votre télé, mobile, tablette ou autre appareil connecté. Étape 3, plus aucun doute, vous êtes le GOAT des soirées cinéma. À vous le streaming Canal+, Apple TV, HBO Max et Paramount+, pour seulement 4000 francs par mois, sans engagement. GOAT, le meilleur de tous les temps. Offre avec abonnement mensuel au tarif de 4000 francs par mois, valable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna jusqu'au 30 avril et soumise à condition. Modalité au 26-53-30 en Canal Plus Store ou sur canalplus-calédonie.com.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal d'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Bodin.
Le 9e jour de guerre au Moyen-Orient où la coalition américano-israélienne poursuit ses bombardements sur l'Iran. Israël, qui est également engagé dans des opérations au sud Liban pour éliminer le Hezbollah, la milice chiite terroriste soutenue par Téhéran. Une sorte de double guerre pour Tsahal, qui est donc aussi visée par une double réplique. La correspondance de Frédéric Simon pour Europe 1.
Avec 9 salves de missiles en tout depuis les premières heures de la matinée, 6 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Il est probable que l'un des projectiles au moins ait été équipé de bombes à fragmentation, une nouvelle donne qui inquiète les responsables de la défense israélienne. L'arsenal balistique du régime iranien ainsi que les rampes de lancement de missiles restent par conséquent des cibles privilégiées des avions de chasse américains et israéliens. Tsahal affirme s'en prendre également aux infrastructures du régime des Mollahs ainsi qu'aux stocks de pétrole dont il dispose, ce qui inquiéterait les États-Unis. Plusieurs médias israéliens rapportent que les généraux américains auraient été surpris par l'ampleur des frappes visant les ressources pétrolières de Téhéran. Les dirigeants haut placés sont eux aussi pris pour cible en Iran et au Liban, où les cadres du Hezbollah sont dans le viseur de l'aviation israélienne. C'est le cas notamment dans le bastion de la milice au sud de Beyrouth, mais également dans un quartier touristique de la capitale, où la chambre d'un hôtel de luxe a été entièrement détruite aujourd'hui. Le bilan est de 4 tués, des cadres des gardiens de la révolution iranienne en poste au Liban. C'est ce qu'affirme en tout cas le porte-parole de Tsahal, qui annonce en outre que 200 membres de divers groupes terroristes ont été tués au pays du Cèdre au cours de ces derniers jours. L'armée israélienne déplore aujourd'hui les premières pertes dans ses rangs depuis l'entrée en guerre de Hezbollah. 2 soldats tués au sud du Liban par des missiles anti-tanks, les roquettes et les drones de la milice pro-iranienne libanaise, nombreux par ailleurs à se diriger aujourd'hui encore vers les localités du nord. La plupart ont été interceptés.
L'Iran poursuit donc ses répliques. Elle vise aussi plusieurs pays de la région, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn ou encore les Émirats Arabes Unis, où plusieurs installations stratégiques ont été touchées. La Ligue arabe dénonce une politique irresponsable et le docteur en géopolitique Frédéric Ansem estime, lui, que l'Iran abat ses dernières cartes militaires.
L'Iran joue une politique très clairement suicidaire. C'est celle de la bête blessée qui pousse pour la première fois depuis très longtemps la Ligue arabe à s'unir avec toute une série de déclarations et de gestes et de menaces d'ailleurs, y compris saoudiennes et émiraties, de riposte contre l'Iran.
Une riposte contre l'Iran de la part des pays de la Ligue arabe qui apparaît bien improbable toutefois, poursuit Frédéric Ansel, pour au moins 2 raisons.
En dépit de leurs achats absolument hallucinants d'armes très performantes, il n'a pas été démontré ces dernières décennies qu'ils savaient s'en servir. Le deuxième point, si les Émiratis, si les Bahreïnis, si les Koweïtiens décidaient de riposter contre l'Iran, qu'est-ce que cela apporterait de décisif par rapport à l'exceptionnelle force de frappe israélienne et américaine? En revanche, il y aurait un risque de déstabilisation interne.
Frédéric Ansel, docteur en géopolitique. Le Kurdistan irakien fait aussi partie des régions victimes des répliques iraniennes ordonnées par les gardiens de la révolution. révolution. Donald Trump espérait que ses habitants lancent une offensive sur Téhéran, puis il s'est ravisé. Le commentaire de Jean-Éric Brana, il est maître de conférence à l'Université Paris 2.
La situation a finalement semblé trop compliquée aux stratèges militaires parce qu'il y a eu une réaction très forte, notamment de la part de la Turquie, qui est dans une situation compliquée avec les Kurdes, puisqu'elle en a elle-même sur son sol et qu'elle les considère comme des terroristes. Et que ce soutien fort des Américains aux Kurdes, et en tout cas d'une situation de prise de contrôle conjointe sur le sol iranien, ne déplaisait aux Turcs, qui auraient menacé d'intervenir eux aussi dans le conflit. Donc on avait un danger de régionalisation encore plus forte de ce conflit dans une situation qui est déjà compliquée. Ce sont d'ailleurs les mots de Donald Trump qui a dit « la situation est déjà bien assez compliquée comme cela ».
Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2, des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Notez que le pouvoir iranien a annoncé ce week-end avoir nommé un nouveau guide suprême. Rien n'est confirmé, mais il pourrait s'agir du fils de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre avec de nombreux responsables du régime des Mollahs. Chypre est le seul pays de l'Union européenne qui a été pris pour cible par les ripostes iraniennes ces derniers jours. Et Emmanuel Macron doit s'y rendre la nuit prochaine pour nous. Une visite tout autant diplomatique que stratégique. Jacques Serret pour Europe 1.
Emmanuel Macron veut d'abord afficher la solidarité de la France avec cet État membre de l'Union européenne, État directement touché par les retombées de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. La semaine dernière, Lille a été visée par plusieurs drones et missiles. Sur place, le chef de l'État rencontrera le président chypriote Nikos Christodoulides et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Mais derrière la séquence diplomatique, il s'agit aussi pour le locataire de l'Élysée de mettre en avant le dispositif militaire français dans la zone. Paris a déployé au large de Chypre la frégate Languedoc et des moyens anti-aériens. Le porte-avions Charles de Gaulle, un porte-hélicoptère et d'autres moyens militaires ont également été envoyés dans la région. L'objectif, selon l'Élysée, protéger les partenaires européens, sécuriser les grandes routes maritimes et tout faire pour éviter un embrasement régional. Et puis, à 6 jours des élections municipales, le voyage n'a rien d'anecdotique. Emmanuel Macron a l'occasion de prendre de la hauteur tout en s'affichant sur le terrain.
L'actualité en métropole et le Parti socialiste hésite à une semaine du premier tour des municipales. Faut-il s'allier ou non avec les candidats LFI, au moins pour tenter de sauver ce qui peut l'être, notamment dans les grandes métropoles? Le radicalisme et les propos antisémites de Jean-Luc Mélenchon constituent une ligne rouge pour certains, mais d'autres plaident pour une alliance de circonstances, ce qui serait une compromission, estime le député de Corrèze, François Hollande.
Là, ce serait une compromission, puisque ça serait de faire un accord avec des personnes qui ont eu quand même des insultes qui ont été prononcées. Jean-Luc Mélenchon, qui a pu avoir des propos qui ont été de la connotation antisémite, oui, ce serait à ce moment-là une compromission.
Voilà donc le point de vue du député de Corrèze et ancien chef de l'État, François Hollande. Encore un mot de l'actualité en métropole avec ce nouvel accident de la circulation dramatique lié sans aucun doute à la consommation de gaz hilarant. Une bonbonne a en effet été retrouvée dans une voiture qui a violemment percuté un arbre sur une route de Seine-et-Marne. 4 jeunes étaient à bord. 3 d'entre eux, dont le conducteur qui aurait consommé le gaz, sont morts sur le coup. Le 4e occupant de la voiture est lui grièvement blessé. La fin de ce journal.